Jérôme, dites-nous tout.
Donc, il y a quelques temps dans la presse, le préfet de la Vendée avait annoncé qu'il prendrait sa décision sur le projet de port d'ici l'été 2019. L'objectif pour la communauté de communes, si sa décision était favorable, est de lancer le plus rapidement possible les appels d'offres. Et donc, comme il sera très délicat de réunir un conseil communautaire au plein cœur de l'été, il vous est demandé d'autoriser, dans l'hypothèse d'une réponse positive du préfet, le lancement des appels d'offres. Donc, les détails sur l'appel d'offres, on est dans la déclinaison de la déclaration projet que vous avez votée. Vous savez, la déclaration qui faisait 44 pages, je crois, le 4 avril 2019. Donc, le projet sera lancé sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché sera loti avec 4 lots. Avec l'objectif notamment de réunir les travaux de VRD Génie Civil, l'objectif étant de tirer profit des matériaux sur place pour notamment toutes les voiries et tirer les meilleures baies. Ce qu'on a dit aussi, c'est que le lot terrassement sera forfaitisé, c'est-à-dire que à partir du moment où l'entreprise aura la connaissance précise de toute la nature des sols, c'est lui qui prendra le risque en termes de coûts d'excavation, qui permet de sécuriser au maximum l'aspect financier du projet. En ce qui concerne l'enveloppe de travaux, donc, dans l'étude d'impact et dans l'enquête publique, on avait fait état d'une enveloppe de travaux de 32 600 000 euros, valeur décembre 2017. Et donc, lors de ses conclusions, la commission d'enquête chargée du projet a émis une réserve en disant qu'il fallait essayer de plafonner l'enveloppe de travaux à 30 millions d'euros net. C'est ce qu'on entend par net, c'est après déduction des subventions. Je vous rappelle que le département a émis une décision de principe d'attribuer une subvention de 3 millions d'euros pour le projet. Si l'on tient compte de cette subvention et de l'actualisation des prix, puisque encore une fois le prix de l'enquête publique était de décembre 2017, si on fait l'actualisation du prix à février 2019, puisque les indices TP01 notamment ne sont pas sortis ce postérieur à février 2019, on arrive à 34 099 624 euros pour l'enveloppe de travaux, ce qui nous permet d'être tout à fait optimiste sur la question de l'attribution de ces marchés. En ce qui concerne le plan, vous l'aviez dans votre dossier, vous l'avez sur cette diapositive, on est sur le projet dont on parle depuis maintenant 2015.
Bien, donc il vous est proposé donc, d'approuver le lancement de l'appel d'offres, de dire que les marchés correspondants pourraient être notifiés aux entreprises que postérieurement à la délivrance des autorisations administratives et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Avant de vous proposer la délibération, je me tourne vers vous pour vous demander s'il y a des questions ou des remarques. Monsieur Biron.
Oui, j'ai quelques questions. Alors, vous avez dit sans préjugé de celle-ci de l'avis du préfet, mais c'est une volonté politique ou c'est une demande des services de l'État d'avancer le dossier aujourd'hui d'appel d'offres ?
Les deux, mon capitaine, mais plutôt une volonté politique, oui, bien sûr.
D'accord. Donc l'État aujourd'hui peut-être cherche à lever une réserve avant de se prononcer sur la valeur qui pourrait être issue de l'appel d'offres.
Non, l'État n'a pas de réserve élevée, l'État prendra sa décision sereinement. Et prendra les réserves qu'il voudra d'ailleurs, mais.
Alors, 30 millions, on va être les 30 millions en soi, enfin 30 millions, même si vous rajoutez vos 3 et vos indices, vos index, même à 34 millions, si bon, votre appel d'offres est supérieur, ça ne pourra pas dire que vous avez levé la réserve.
Pour répondre sur le plan juridique, M. Biron, pour tout vous dire, les services.
Je suis à l'écoute, monsieur.
Les services de l'État étaient très perplexes vis-à-vis de cette réserve de la commission d'enquête, puisque vous le savez mieux que moi. Le coût d'une opération de travaux, on le connaît que réellement qu'à la réception des travaux, une fois que le décompte global définitif est connu. Donc, ils nous ont demandé de tenir compte au maximum de ça, mais ce n'est pas ça qui a justifié que le dossier soit avancé. C'est plutôt la délimitation de l'emprise portuaire du port, puisque ça rentre en ligne de compte dans le cadre de l'instruction administrative qui est actuellement en cours et qui va faire l'objet notamment d'une consultation du CODERST dans les prochaines semaines.
C'est la délibération numéro 6. Ouais,
pas de problème, je vous interrogerai sur cette délibération. Alors, quelles sont les dates d'effet là, que vous pensez proposer, le temps de monter votre dossier d'appel d'offres, le mettre en parution et le délai que vous avez laissé aux entreprises pour répondre à quelques semaines, quelques... Voilà.
Donc, l'objectif, c'est d'attendre, bien sûr, la décision du préfet qui devrait intervenir, nous l'annonçons au courant du mois de juillet. Donc, dès la notification de l'arrêté préfectoral, s'il est positif, Le dossier de consultation des entreprises sera mis en ligne et l'objectif c'est de laisser un minimum de 2 mois et demi aux entreprises pour qu'elles puissent examiner le dossier puisque on considère que sur une opération comme celle-ci, le temps laissé aux entreprises pour examiner le dossier est un temps bien investi et qui permet ensuite de tirer les meilleurs prix puisque plus une entreprise peut tirer les moyens d'optimiser son intervention, plus les prix sont bas, vous savez sans doute encore mieux quoi.
Bon, certainement, mais votre réponse me convient. Sauf que moi, j'avais compris dans cette délibération que vous avez lancé le dossier d'appel d'offres préalablement à la réponse du préfet. Donc, si j'ai bien compris, vous attendez la réponse du préfet avant de lancer, avant de mettre en ligne le dossier pour consulter les entreprises.
Alors, il n'y a rien qui nous oblige à le faire. On pourrait le faire dès demain matin, mais c'est un choix, encore une fois, politique, de faire comme ça, parce que on considère que c'est une forme de prudence et qu'en plus, voilà, on n'est pas à un mois près.
Oui, mais cette réponse me convient, puisque vous avez donc répondu à ma question. Alors moi, je voudrais vous interroger sur l'étude hydrogéologique là, qui est donc parue sur le site de la commune. Alors moi, j'ai trouvé que les conclusions ne sont pas très formelles, si vous voulez. J'ai l'impression qu'ils nous disent « ça va marcher, mais on n'est pas certain que demain matin, on n'a pas un risque de rabattement de nappe de l'eau douce de la zone 8 du Marais-Gérard qui pourrait s'écouler par le plan naturel des sous-sols dans le port, notamment par la faible profondeur, ou la profondeur, on va dire, de 6 mètres sur la barrière de coulis qui est prévue. Donc, enfin, je peux vous lire la conclusion pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre cette lecture, ces 3 lignes. La mise en œuvre d'un écran de confinement de type fardeau au coulis permettra de limiter très fortement, voire d'éviter complètement le rabattement de la nappe. Par ailleurs, dans les zones granitiques, les perméabilités sont très faibles et le rayon d'influence de l'excavation est très peu étendu. Dans ces conditions, la réalisation d'un écran de confinement ne se justifierait pas, donc c'est conditionnel, dans cette zone. C'est pas très formel.
Alors, ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire justement que la conclusion de cette étude nous dit qu'on pourrait se permettre probablement de se passer de cette cloison, j'appelle une cloison pour résumer, mais on n'en a pas l'intention, puisque justement, nous, on veut sécuriser totalement et la gestion de ce dossier et l'avenir de ce lieu. Donc, à l'heure où on se parle, je peux vous dire, on ne suivra pas, si je puis dire, cette conclusion. Parce qu'on pourrait être tenté, pour économiser un peu, voire beaucoup d'argent, de ne pas la faire. On la fera quand même, a priori en tout cas, c'est ce que l'on pense aujourd'hui. Je voudrais préciser que cette étude complémentaire a été faite à la demande d'un certain nombre de personnes. Rappelez-moi le nom, oui, pardon, de Michel Chevalier, que je remercie d'ailleurs parce que Michel Chevalier est quelqu'un qui a fait preuve, j'allais dire, d'une honnêteté intellectuelle sur ce dossier, avec une exigence très forte sur le plan justement géotechnique et géologique. Et donc, voilà, ce monsieur, par sa demande du dernier jour de l'enquête publique, nous a permis de conforter et de solidifier le dossier avec les conclusions de cette enquête. Donc voilà, on est encore plus confiant aujourd'hui qu'hier. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. Alors après, sur les aspects techniques de ce qui est écrit dans ce document, je me considère, moi, comme totalement incompétent pour faire plus de réponses.
Oui, donc ce sont des travaux extrêmement particuliers. Effectivement, les injections de parois de bentonite, c'est un métier très particulier. D'ailleurs, je me suis toujours posé cette question, parce que c'est 392 100 euros de budget dans à l'époque des coûts du projet. Donc je me doute que des parois de cette profondeur-là, ne serait-ce qu'à 12 mètres, comme ça a été évoqué dans certains cas de figure, c'est pas réalisable pour 392 000 euros, parce que alors, c'est une mise en œuvre très 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 coûteuse. Quoi.
Je ne sais pas d'où vous tenez ce chiffre de 392 000, que moi je n'ai pas gardé en mémoire.
Dans le document à 4 000, page 57, mais c'est le document numéro C.
C'est la plus-value qui était prévue, puisqu'il y avait déjà une paroi qui était prévue dans le premier projet de 2011.
À aucun moment, elle est de 387 000 euros, elle est bien plus chère que ça, parce qu'elle coûte de mémoire entre 2 et 3 millions d'euros. Effectivement, le chiffre que vous évoquez est la plus-value entre la première version et la deuxième. Donc je ne connais pas le numéro de la page, mais je peux
toute façon, vous savez, et je viens clôturer, je parlais de Michel Chevalier, puisque vous l'avez évoqué. Le dossier, si vous voulez, notamment sur le coût du projet, mais on ne reviendra pas sur l'enquête publique, c'est un dossier qui est clos. Donc, je sais aujourd'hui que le débat du Conseil communautaire doit être sur le sujet d'aujourd'hui, pas celui d'hier. Néanmoins, si justement il y a eu un peu plus de détails sur les coûts financiers, je l'ai déjà dit avec Jérôme Denechaud, s'il y avait eu quelques pages sur les mille et quelques pages du dossier, pour vous dire, je suis assez assidu à la lecture, je l'aurais peut-être mieux détecté. C'est pour moi quelque chose qui a beaucoup manqué dans le dossier d'enquête publique. Je reviens sur ce que dit Michel Chevalier, j'ai récupéré tout à l'heure sur Internet une conclusion qui dit l'étude ne tient pas compte de la réalité du terrain. L'étude a été volontairement limitée. Le déphasage en temps et de fonction entre la réserve exprimée et la nouvelle étude est-elle soit substantielle, serait-elle possible de s'arrêter à ce premier constat? Cette nouvelle étude a été tronquée. Donc, en somme, monsieur, c'est lui qui fait paraître, c'est signé de son nom, vous pouvez le récupérer sur Internet. Elle dit qu'elle ne répond pas aux problèmes hydrologiques soulevés dans le secteur de la protection des zones humides, elle ne répond pas à la durabilité du système proposé. C'est lui qui écrit. Ceux qui veulent,
vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'en pense?
Alors écoutez, monsieur le président,
je crois qu'on s'est
souvent habitué à me répondre. Alors, je laisse le choix, je vous laisse le choix bien volontiers.
Alors, vos sources internet, vous savez vraiment, j'allais dire que j'ai à deux doigts de dire une grossièreté, mais vous savez très bien ce que j'en pense de vos sources internet.
Ah, c'est signé Michel Chevalier,
quand même. Oui,
pas signé un autre nom, monsieur le président. Voilà. C'était ma réponse sur la question numéro 1 du port.
Je voulais pas poser de questions, donc il ne faut pas me faire de réponse. Hein,
non, mais moi j'ai fini mes questions, excusez-moi, sur la partie de ce sujet-là.
Très bien.
Et bien évidemment, vous connaissez le sens de mon vote.
Il n'y a pas de suspense alors. Bien. Alors,
pas de suspense, non.
Alors, ces choses étant dites, sur ce lancement de cet appel d'offres, donc il vous est proposé d'approuver ce lancement, de dire que les marchés correspondants ne pourraient être modifiés que dans vos entreprises et de m'autoriser, bien sûr, à signer tout document. Y a-t-il sur ce sujet, mesdames et messieurs, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Allez, du jour numéro 5, attribution d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage environnemental et social pour les travaux de construction du port de Bretignolles, je dois le préciser.
Donc, pour finaliser le projet, il est nécessaire de faire appel à un assistant à un maître d'ouvrage dans le domaine de l'environnement. C'est un assistant qui aura comme mission, donc en phase de préparation du chantier, de décliner tous les engagements environnementaux qui figuraient dans l'étude d'impact pour les intégrer dans le dossier de consultation des entreprises. En phase travaux, cet assistant à maître d'ouvrage aura pour objet principal, pour mission principale, de vérifier que toutes les exigences qui sont indiquées dans l'étude d'impact seront suivies par les entreprises intervenantes. Et puis la troisième chose, c'est qu'après la mise en service du port, 3 ans environ, cet assistant à maîtrise d'ouvrage aura pour mission de mesurer le suivi des espèces et des milieux pour vérifier que les mesures compensatoires environnementales ont produit tous leurs effets et permettent d'assurer les continuités environnementales, biologiques et le maintien de la biodiversité. Donc cette mission s'étendra sur 3 années après la mise en service du port. La communauté de communes s'est engagée à suivre les milieux pendant 30 ans postérieurement à la mise en service du port. Ça veut dire qu'à l'issue de ces 3 années où l'assistant à maître d'ouvrage aura mis en place tous les outils de suivi, ensuite ce relais pourra être pris par cette assistance pourra être prise en charge par une association environnementale. C'est l'objectif en tout cas, si certaines sont intéressées, c'est avec bien sûr de façon bienveillante qu'on publiera nos propositions. Et ce que je voulais dire, donc, c'est que l'appel d'offres a été lancé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert avec toute la publicité nécessaire. Dans les dernières parties, seule une offre est intervenue, c'est celle de la société Biotope, qui est leader sur le marché métropolitain en matière d'études environnementales et qui a proposé une offre conforme à 686 344 € hors taxes. C'est une prestation qui s'étale, je le répète, demain plutôt, jusqu'à 3 ans après la mise en service du port, donc sur un laps de temps assez long. C'est un budget important, mais qui était prévu dans le budget de l'opération, puisque ceux qui avaient lu l'étude d'impact, on avait prévu une somme de 800 000 euros au titre de tous les contrôles techniques, CSPS, et coordinateur sécurité et protection de la santé, et assistant environnemental, on avait prévu 800 000 euros, Le marché de contrôle technique a été attribué à 87 930 € à Bureau Veritas, le CSPS pour 20 460 € à Capit Consult. Et donc, si vous validez cette délibération, l'assistance à maîtrise d'ouvrage environnement SPAS sera attribuée à Biotop 686 344 €, soit un total de 794 734 €, c'est-à-dire qu'on est bien dans l'enveloppe initiale.
Une précision avant de donner la parole à M. Piron, il va de soi que ces 794 000 € ne seront dépensés que si l'opération se réalise. Dans le cas où ça ne réalise pas, on a un coût de 18 000 €. Quand même, c'est important de préciser. Monsieur Biron.
Merci de me donner la parole. Voilà, monsieur le président. Alors, vous avez dit une chose assez juste tout à l'heure, monsieur Demechaud. Oui, je vais prendre le bon sens.
Ça nous a mis.
Biotop, oh, je pense que ça ne vous impressionne pas beaucoup. Que Biotop est un leader dans le marché, c'est un fait. Mais il est aussi quand même Biotop le concepteur du dossier d'origine, puisqu'il est dans le groupement avec BRL. Donc aujourd'hui, on le retrouve en tant que concepteur et en tant qu'assistant maître d'ouvrage. Je pense qu'il aurait été bien de le dire, parce que, effectivement, tout le monde se dit tiens, je crois qu'il y a une seule entreprise. C'est vrai que déjà, c'est pas beaucoup que l'entreprise réponde. Je me rappelle du dossier de l'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre, où à l'époque, il n'y avait que le groupement BRL, dont Biotop en fait partie. Je trouve que le dossier de Port-Bretignon n'attire pas beaucoup les foudres des bureaux d'études. Mais néanmoins, ça sent que c'est un peu dommage, ça sent que vous voulez de confier à Biotop, même si c'est effectivement un bureau d'études de valeur. À la fois, il a fait la conception du dossier pour qu'il ait été rémunéré, et aujourd'hui, il sera votre assistant, maître d'ouvrage. Je trouve ça dommage.
Moi, je trouve ça super. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît parfaitement le dossier, qui l'a justement validé, qui est le plus important cabinet français, et sans doute l'un des seuls et rares compétents pour ce genre de métier. Leur réputation n'est plus à faire, ben, tant mieux. Et alors, notre chance, effectivement, c'est que ça rentre dans le budget. Donc, voilà. On trouve ça très bien. Tiens, juste là, tout est normal. Vous trouvez ça pas bien? Moi, je trouve ça bien. Voilà.
Si vous voulez, c'est une matière que le regard de ce qu'il a écrit à l'époque, de ce qu'il verra demain matin avec vous en tant qu'assistant maître d'ouvrage, est un regard relativement tronqué. Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas bien dans le boulot, mais il y aurait eu une société tronquée, tierce. Voilà. Vous savez, il a écrit le dossier. Hein.
C'est plutôt bien quand c'est le concepteur d'un chantier qui le suit. C'est quand même, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Il me semble que c'est l'essentiel de votre métier de suivre les dossiers et les constructions que vous dessinez au départ, donc que vous étudiez. Donc ça me paraît vraiment dans une très très grande logique. Mais bon.
Après, voilà. Il nous arrive parfois, comme probablement dans la société que vous dirigez, de trouver des petites erreurs de conception qu'on cherche pas forcément à aller apporter aux clients, parce qu'on se dit qu'on aurait peut-être pu être plus brillant lors de la réflexion de base. Ouais, je pense que ça doit bien vous arriver aussi de temps en temps chez vous.
J'ai pas ce problème-là.
Ah, mais c'est vrai, vous êtes quelqu'un de parfait. Mais monsieur le Président, je...
C'est pas moi qui l'ai dit, là, c'est vous.
Mais non, mais j'entends bien, mais c'est...
Je suis content de vous l'entendre dire.
Vous avez une entreprise si importante avec des centaines de salariés et vous n'avez pas de problématique. Donc, forcément, vous êtes parfait.
Ça doit être ça. Ça doit être pour ça, effectivement. Bien, allez. Donc, voilà, d'autres choses, non?
Bien évidemment, je ne partagerai pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 4 délibérations, il n'y en a que 3 sur le projet du port. C'est mon Dieu, la deuxième. Le ministère tout à l'heure au début.
Il n'y en a que 3, non, mais c'est parce que tout à l'heure on a rajouté au bureau le permis d'aménager, mais qui ne concerne pas le conseil de ce soir. Pardon, excusez-moi. Donc, pour cette heure du jour numéro 5 et l'attribution de ce marché, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Hors du jour numéro 6, délimitation de l'emprise portuaire du port de Plaisance de Bretignolles-sur-Mer. Alors ça, c'est un sujet important parce que il explique que, on parle de l'avenir une fois que ce sera réalisé.
Donc c'est une demande là, des services de la DDTM de la Vendée qui souhaite que la communauté de communes délibère sur la délimitation de l'emprise du port dans le cadre de l'article R5311-1 du Code des transports. Donc le rôle du conseil communautaire est de définir quelles seront les emprises définitives du port de Plaisance. Donc vous avez sur ce plan sur lequel je vais aller tout de suite sur les détails. Donc sur la partie maritime, l'emprise portuaire est rigoureusement identique à celle qui va être attribué à la communauté de communes dans le cadre du transfert de gestion du domaine public maritime, qui était l'une des composantes de l'enquête publique qui a eu lieu dans l'été dernier, en 2018. Donc vous avez la délimitation qui reprend rigoureusement les contours des ouvrages en mer et le chenal qui sera creusé. Ensuite, nous avons les contours du bassin numéro 1. Donc on a juste les bords des quais. C'est-à-dire que la partie notamment de l'école de voile et puis de la partie du poste de secours, pour ceux qui connaissent la norme de Lièvre, reste en dehors de l'emplacement vert et ne sera pas impacté dans la gestion de la délégation de service public. S'il y a demain une délégation de service public ou un contrat confié à un exploitant type société publique locale, cette partie-là ne sera pas concernée par la délégation. On intègre dans cette partie-là le parking plaisancier qui sert à la zone d'escale qui est ici. Et puis on intègre aussi toute la partie bâtiment de l'ancienne ferme de la Normandelière et de la colonie à l'appui pour la zone de vie, la zone d'animation, avec la capitainerie et les différents commerces liés à l'exploitation du pont. Et puis enfin, on a le deuxième bassin, où on intègre juste les contours du bassin, la zone technique que vous avez ici, plus le parking principal de la zone porte verte qui sera principalement réservé au port, l'autre grand parking étant juste le rétablissement du parking de plage de la Normandie. Donc voilà la délimitation proposée.
Voilà, donc c'est un peu le même concept que ce qui existe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y a une partie des lieux qui est à la charge donc, de l'exploitant du port, notamment en matière d'entretien et de fonctionnement, et puis une autre partie des lieux qui sera demain donc, à la charge de la commune. Logiquement, le bassin de baignade et le bassin de nautisme retourneront à charge de la commune. Voilà, alors est-ce que ça inspire une réflexion de M. Biron ?
Oui, toute petite. Non, mais bon, cette délimitation oui. Semble effectivement quelque chose de clair. Quand vous avez une question, le titre reviendra à la commune de Boitignolles, le bassin. Alors, parce que le bassin de baignade est-il financé dans le cadre du projet de port par la commune ?
Oui.
Mais après, à l'issue, donc, la municipalité le récupère, je veux dire, pour le rôle symbolique, non ?
Non, c'est la gestion qui. C'est juste. C'est une mise à disposition, hein, ça restera bien une propriété communautaire avec une mise à disposition à la commune pour en faire l'utilisation qu'elle voudra, mais surtout pour qu'elle l'entretienne. Elle aura en charge notamment la charge de son pompage. Comme ça existait avant que la communauté de communes arrive sur ce lieu.
Très bien, alors ça veut dire qu'il y aura la propriété, on va dire, du domaine public qui vient d'être dessiné. Il y aura donc une propriété, si j'ai bien compris, intercommunale, et il y aura une propriété communale.
Non, toujours pas.
Toujours pas, alors j'ai mal compris.
Tout sera la propriété communale, puisque c'est intercommunale, pardon, communautaire, donc.
D'accord, communautaire, ouais.
La communauté qui sera propriétaire de l'ensemble des terrains qu'elle va acquérir dans les semaines à venir si le projet est validé. Et donc, elle aura une convention avec l'exploitant du port et une convention avec la mairie de Boitignolles-sur-Mer.
D'accord, donc il y aura une double convention. C'était le mot qui manquait pour comprendre le fonctionnement.
Très bien. D'autres questions, remarques ? Donc, sur cette délimitation, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Pour le jour numéro 7, approbation des procédures de mise à disposition de l'actif et du passif dans le cadre du transfert de la compétence assainissement aux pluviales urbaines.
C'est une délibération très technique sur laquelle on va aller très vite. En fait, c'est une conséquence du transfert de la compétence eau pluviale urbaine à la communauté de communes qui nécessite que. nécessite que les transferts de biens soient actés par un procès-verbal de mise à disposition. Donc, en fait, cette délibération permettra au président de signer tous les procès-verbaux avec toutes les communes concernées par les transferts de biens.